Mélissa, qu'est-ce que tu lis en ce moment comme livre ?
Je lis « Moitié tu vas sorcière » de Maryse Condé.
C'est qui Maryse Condé ?
Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez-vous.
Tout le monde s'adresse au ministre en disant « Bonjour monsieur le ministre » et à moi en disant tout simplement « Bonjour ».
Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire.
Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
Ça n'est quand même qu'une nana.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission avec
Mélissa,
Margot
et moi-même, Déborah. Aujourd'hui, nous allons parler de Maryse Condé. Mais qui est cette femme ?
Maryse Condé est une journaliste, professeure de littérature et écrivaine.
Elle est née à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, dans une famille nombreuse de 8 enfants, dont elle est la benjamine. Elle dit qu'elle a grandi dans une famille de bourgeoisie noire et que son enfance a été purement française. Sa mère était l'une des premières institutrices noires de son époque. Sa famille et elle ont beaucoup voyagé en métropole, à peu près tous les 5 ans, et c'est là qu'elle a nourri l'envie de partir de la Guadeloupe pour aller étudier en France. C'est donc pour cela qu'elle part de la Guadeloupe pour étudier à Paris au lycée Fénelon. Puis, ensuite, elle a fait des études de lettres classiques à la Sorbonne.
Maryse Condé est principalement connue pour ses ouvrages littéraires, donc en tant qu'écrivaine.
Et en 1986, elle publie un de ses plus célèbres romans, « Moitié tu bats sorcière », dont on a parlé en intro, si vous avez la référence. Mmh. Et il fait partie des livres les plus lus et enseignés aux États-Unis. C'est l'histoire de Tituba, une jeune guérisseuse noire de la Barbade, qui est devenue esclave et est accusée de sorcellerie dans le village de Salem, près de Boston, aux États-Unis. Ça retrace le célèbre procès de Salem qui a eu lieu en 1692, où Tituba a été arrêtée, oubliée dans sa prison, jusqu'à l'amnistie générale 2 ans plus tard. Maryse Condé lui donne une voix et la réhabilite en imaginant son retour dans son île natale de la Barbade au temps des premières révoltes d'esclaves. Tituba a vraiment existé, pour ceux qui ne le savaient pas, et a fait partie de ces femmes jugées pour sorcellerie lors du célèbre procès dont on a parlé, mais on dispose encore de très peu d'informations sur elle, car son cas n'était pas jugé d'intérêt à l'époque. Maryse Condé a voulu lui rendre justice du coup et a bâti un roman fiction composé à partir du peu de ce que l'on sait déjà de cette femme. Donc je vais vous lire un petit extrait du roman pour vous mettre l'eau à la bouche. « Ce qui me stupéfait et me révoltait, ce n'était pas tant les propos qu'elle tenait que leur manière de faire. On aurait dit que je n'étais pas là, debout au seuil de la pièce. Elle parlait de moi, mais en même temps, elle m'ignorait. Elle me raillait de leur carte des humains. J'étais un non-être, un invisible, plus invisible que les invisibles, car eux, au moins, détiennent un pouvoir que chacun redoute. »
Ça a l'air d'être un roman très intéressant, tu me le prêteras ?
Oui, poignant aussi.
Et c'est vrai que aussi, elle a beaucoup été inspirée de ses origines antillaises en inspiration dans ses romans. Et c'est d'ailleurs quand elle se rend au lycée, où elle va endurer d'ailleurs des comportements racistes de la part de ses camarades, qu'elle va aussi s'informer sur ce qu'est en fait le colonialisme. La colonisation, l'identité, l'origine la dépossession. Et c'est grâce d'ailleurs aussi, en fait, elle va se lier d'amitié avec la fille de Jean Bruat, qui est un historien marxiste de renom, qui enseigne à la Sorbonne. Et en fait, c'est eux qui vont lui apprendre aussi l'histoire de l'esclavage, parce qu'en fait, elle est c'est une femme noire aussi, en plus d'être antillaise. Et c'est vrai qu'elle réalise aussi que sa mère lui avait pas mal caché toute cette histoire. Et elle va beaucoup s'y intéresser. Ça va être une vraie source d'inspiration pour ses romans.
Elle s'est aussi inscrite dans un tout nouveau genre littéraire. En effet, au début des années 1990, elle s'inscrit dans le mouvement avant-gardiste brésilien avec la théorie du cannibalisme littéraire. Mais qu'est-ce que c'est que donc cette appellation très longue ?
Tu te demandes bien, Déborah.
En fait, en 2003, elle publie « Histoire de la femme cannibale » où elle se met en scène à travers un personnage, le personnage de Rosélie Thibaudin, qui se sent comme échouée en Afrique du Sud. Elle est un peu perdue après la disparition de son mari Stéphane. Et donc Rosélie, le personnage du roman, nourrit l'idée qu'une femme cannibale nommée Fiela aurait tué son mari. Cette femme cannibale serait la métaphore de la femme noire mariée à un homme blanc qui doit faire face à plusieurs problèmes, notamment le racisme et le patriarcat. Plus récemment, en 2008, elle a écrit Les Belles Ténébreuses. C'est un roman qui relate l'histoire d'un jeune Français qui était victime d'un attentat terroriste dans une ville imaginaire d'Afrique.
Et elle n'est pas seulement écrivaine, elle est aussi professeure et journaliste. C'est d'ailleurs ses professions qui vont la faire voyager. En effet, en 1959, elle part en Côte d'Ivoire pour devenir professeure de français dans un lycée. Ensuite, en 1966, elle va se rendre à Londres pour travailler au service d'Afrique de la BBC, où elle va réaliser des comptes rendus, des livres, des expositions, des concerts et des pièces de théâtre africains ayant trait à l'Afrique. Et elle va aussi souvent quitter l'Afrique de l'Ouest pour ensuite revenir en Guadeloupe, pour ensuite revenir en France. Enfin, elle fait beaucoup d'allers-retours. Mmh. Et,
En 1969, elle a quitté le Ghana pour le Sénégal avec ses enfants. Et c'est là-bas qu'elle travaillera d'abord à l'Institut africain de développement économique et de planification en tant que traductrice. Et elle est ensuite affectée au lycée Gaston Berger de Kaolack, dans le Sinsaloum. Ensuite, en 1997, elle rejoint l'université Columbia et elle fonde et préside le Centre des études françaises et francophones jusqu'en 2002. Elle préside aussi le Comité pour la mémoire de l'esclavage, créé en janvier 2004, pour appliquer la loi Taubira qui a reconnu en 2001 la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité.
Et en parlant de politiciens, est-ce que vous saviez que Emmanuel Macron s'est confié au journal Point après avoir remis la Grande Croix de l'Ordre National du Mérite à l'écrivaine Maryse Condé le lundi 2 mars 2020. Il a déclaré qu'il l'a connue quand il était jeune étudiant et qu'il a lu pour la première fois avant de partir au Nigeria il y a 20 ans. C'était Ségou, un de ses nombreux romans. Et il l'a accompagné pendant des années, le roman bien sûr. Je cite... J'ai toujours été passionnée par l'Afrique et elle fait partie des écrivaines qui m'ont appris l'Afrique. Je suis bouleversée par les combats qu'elle a menés et surtout par cette espèce de fief qu'elle porte, d'indiscipline, de décalage permanent. Elle est l'une des voies de réconciliation de notre propre histoire.
Et Macron n'est pas le seul politique à s'intéresser à Maryse Condé. En effet, Christiane Taubira a tenu à féliciter Maryse Condé pour son prix de la Nouvelle Académie de Littérature qu'elle a reçu en 2018. Elle a donc fait un tweet, je cite « Félicitations chaleureuses et amicales à Maryse Condé, lauréate du prix Nobel alternatif de littérature. La vie n'est pas toujours scélérate, elle réserve des merveilles et nous donne parfois le cœur à rire, trois petits points, ou à pleurer d'émotion. »
Très bon.
Et en effet, lorsqu'on voit la vie de cette femme, c'est qu'elle est, elle est surtout beaucoup rattachée à l'Afrique. Enfin, même, elle a été journaliste et en 1977, elle rejoint l'équipe de l'hebdomadaire « Demain l'Afrique ». Donc, vraiment, tout est relié à l'Afrique. Elle est vraiment passionnée.
Ouais, et à la quête d'identité, de son identité guadeloupéenne. Et on voit qu'elle est à la recherche de ses origines à travers ses descendants qui sont des esclaves. Mmh. Et du coup, elle était un peu déracinée et ça l'a fait retourner un peu aux sources.
En 2002, elle a fait beaucoup de recherches sur sa grand-mère, notamment afin d'avoir une sorte de portrait littéraire et d'étudier l'ascension sociale de ses parents par rapport à ses grands-parents.
Et dans ses autres voyages aussi, je n'ai pas mentionné, elle s'est rendue aussi aux États-Unis, où ce qui lui a permis de rencontrer des femmes de grande valeur, telles que Patricia Hill Collins, alors âgée de 32 ans, directrice de l'African American Center de Tufts, Sandy Moore, architecte, Sarah Griffin, Gwendolyn Brown et Adrienne Mawinson. Et elle a aussi, à son retour, publié un reportage qui se nomme « L'Amérique noire au féminin » pour parler de la trajectoire de ces femmes noires et diplômées. Je cite « Paradoxalement, ces femmes instruites, qualifiées, se sentent les plus défavorisées, car elles n'obtiennent jamais les postes qu'elles méritent vraiment. Certes, moins ostracées que l'homme instruit, elles n'accèdent jamais entièrement à la reconnaissance qu'elles croient mériter. » Trop souvent aussi, elles effraient l'homme noir, moins privilégié, sans intéresser leurs égaux, qui, pour une intégration plus totale, recherchent des campagnes blanches.
Que ce soit dans sa vie professionnelle, familiale, il y a beaucoup de choses à dire sur elle.
Il y a vraiment énormément de choses à dire.
C'est dur à tout caler dans un podcast. Ouais. Et on vous invite vraiment à lire son autobiographie,
ah oui,
La vie sans phare.
Voilà, c'est ça, merci Mélissa.
En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Nous avons pris du plaisir
c'était vraiment intéressant.
De cette femme aux multiples talents.
Ah oui, c'est impressionnant. Et qui a aussi un fort caractère. On vous invite aussi à aller regarder et écouter ses interviews.
Mmh. Oui, ils sont nombreux sur YouTube. Donc
allez-y. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram Balinana, si c'est toujours pas fait. Et nous avons des réels qui vont arriver tous les vendredis à 18h. Donc nous vous invitons à les regarder.
Merci.
Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.